C'est l'heure de votre émission La Bougeotte sur les ondes de Radio Galaxie, présentée par Christian Cayol. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour tout le monde.
Rappelons que La Bougeotte est diffusée sur les ondes de Radio Galaxie le premier mardi à 9h30, deuxième jeudi 14h30, troisième samedi 17h30, quatrième dimanche 7h. Et aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir la Vendée, mais toujours par des chemins de traverse.
Exactement, oui. Alors, donc je vous amène sur les terres vendéennes. Et vous allez voir des sites extravagants, mystérieux, magiques, parfois oubliés, et des personnages sulfureux et romanesques. Hein. Beaucoup de choses au programme. Alors, par rapport aux personnages, si je devais en retenir un seul, eh bien, mon choix se porterait sur, sans hésitation, le général vendéen François-Athanase Charette de la Contrie, 1763-1796, mort à 33 ans, un militaire qui a joué un rôle essentiel dans la guerre de Vendée. Sa devise, c'était « combattu souvent, battu parfois, abattu jamais ». Mais on lui doit aussi cette magnifique réponse qu'il fait au général Travaux lors de son arrestation, puisque hélas, il a été arrêté. Et le général Travaux qui s'adresse à lui en lui disant « que d'héroïsme perdu », parce qu'il avait galopé après lui pendant un bon moment. Et Charette qui répond « monsieur, rien ne se perd jamais ». Et je garde cette phrase, le titre de notre émission et le titre de ma vidéo que vous trouvez sur Rando VTT Vidéo ou sur le site Radio Galaxie. Allez voir, vous allez voir les images de ce que je vais vous raconter.
Voilà, Radio Galaxie 31, voilà, à ne pas. Voilà.
Cette période des guerres de Vendée qu'on a rarement étudiée, assez oubliée. Et c'est une période trouble, je voudrais faire un petit point là-dessus, vous rappeler. Alors, pour résumer, après la Révolution, la Convention nationale en 1793, elle prend deux mesures majeures et qui déclenchent une révolte dans tout l'Ouest. Alors, l'obligation faite aux prêtres de prêter serment à la Constitution civile, qu'on appelle ceux qui auront juré les prêtres jureurs, les réfractaires seront pourchassés et exécutés. Et puis la deuxième mesure, c'est une mesure qui ordonne une levée de 300 000 hommes pour faire la guerre aux frontières. Alors, aller se faire tuer au bord du Rhin, pour cette république ne lève pas grand enthousiasme. Mmh. Et la population, de plus, elle est déçue énormément par cette révolution qui ne répond pas tout à fait, même pas du tout, à ses attentes. Les biens du clergé sont saisis puis vendus, mais ils ne profitent qu'à une majorité de bourgeois. Et alors les choses dérapent quand les jeunes conscrits refusent de partir. Alors la révolte regroupe pratiquement toute la Vendée et qui va devenir ce qu'on appelle la Vendée militaire. Forte d'environ 100 000 paysans, c'est pas des soldats, mais bon, ça fait toute une armée. Et la République considère que ces soulèvements sont contre-révolutionnaires. Alors une guerre, donc carrément guerre civile entre bleus et blancs, de 1793 à 1796, avec à la tête de la Convention nationale Robespierre, et c'est l'époque de la terreur. Mmh. Alors il déclare, il faut brûler la Vendée, aucun prisonnier, pas de survivants, ni femmes ni enfants, et il envoie, sous les ordres du général Thureau, ce que l'on a appelé les colonnes infernales. Alors il fallait tout détruire, tout brûler, massacrer, incendier tout, les tours, les moulins, les maisons, châteaux, faire de la région un véritable désert. Sans avoir oublié de retirer toutes les richesses possibles avant d'y foutre le feu.
Ça c'est clair.
Alors tels étaient les ordres donnés par la Convention. Ce fut une époque, une période sombre, la plus sombre peut-être de notre histoire de France, souvent occultée. Alors les exécutions ne sont jamais assez rapides. Toutes les méthodes sont imaginées. Pour tuer en masse, et par les pires moyens, les noyades par milliers dans la Loire, sans aucune distinction et sans aucun jugement. Un véritable génocide, à grande échelle, qui pousse la population à se réfugier dans les forêts, par exemple comme à la forêt de Grala, où 2000 personnes passent 6 mois, pendant l'hiver 93-94, dans des cabanes de bois. Ouais. On voit des images de ces cabanes sur ma vidéo. Mmh. Ouais. Et puis, à Luc-sur-Bologne, un petit village, les troupes révolutionnaires massacrent à la baïonnette pour économiser les balles, puis incendient l'église où s'étaient réfugiés plus de 500 femmes, vieillards et enfants. Un oradour sur glane entre Français. Ouais. Après la mort de Marie-Antoinette, certains chefs blancs découragés subissent d'importants revers. Et en 1796, il ne reste plus qu'un petit groupe, une petite troupe, commandée par ce général, François Athanase Charette de la Contrie. Il sera nommé le roi de la Vendée, mais blessé, arrêté, il sera trimballé dans Nantes, un peu partout, avant d'être fusillé. Ça marque la fin de la guerre. Après ça, on entre ce qu'on appelle la chouannerie. Mais c'est une autre guerre qui est faite d'embuscades, de clandestinité, et qui se fera surtout sur la rive droite de la Loire, et qui ne prendra fin qu'en 1800. Voilà l'histoire des Vendéens et des Chouans qui a été oubliée par l'histoire de France.
Et pourquoi oublier ?
Alors là, pourquoi oublier ? Je ne peux pas répondre à la question. N'empêche que je n'en ai aucun souvenir dans toute ma scolarité d'avoir entendu parler des guerres de Vendée. Je pensais que c'était des petites manifs. Non, c'était vraiment guerre entre Français et Français. Donc voilà. Et comment a-t-on pu obliger cette région à fêter un 14 juillet alors que c'est surtout la date pour eux de la mort des enfants. Donc voilà, tout ça oublié, occulté, heureusement, pas par moi.
Mais très bien,
modestement. Alors, massacre, holocauste, crime de guerre, génocide, la question fait encore débat. Mais on dénombre quand même 400 000 morts.
Voilà. Et il y a des musées, non, sur ta vidéo, on voit effectivement des prises de vue dans des musées ou autres.
Alors, vous avez, prises de vue. J'en ai parlé tout à l'instant, la forêt de Grala, les cabanes où se sont réfugiés les gens. Vous avez des images faites au musée à Cholet, musée de la Vendée. Sur mes images, vous avez aussi le logis de la Chaboterie, lieu où a été arrêté le fameux général Charette. Il y a une stèle qu'on voit au début de ma vidéo, la stèle à l'endroit même où il a été arrêté. Changement de lieu, changement de centre d'intérêt et changement d'époque. C'est une région où on a beaucoup de troglos. Il faut s'imaginer qu'il y a 15 millions d'années, c'était un golfe peu profond, une mer chaude, tempérée, pas plus de 50 mètres de profondeur. Et tout ce coin, l'Anjou, la Touraine, c'était sous l'eau. La Bretagne, c'était une île. Tout ce coin, le paysage, c'est un paysage de savane, peuplé par les ancêtres de nos éléphants, de nos rhinocéros, singes et crocodiles. Cette mer porte le nom de mer des Falins. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est dans ces falins, lorsque ça a été asséché, émergé, on a trouvé une roche tendre, très facile, pour creuser des habitations et les troglous. Alors, au Moyen-Âge, la population donc, a creusé des souterrains pour s'y protéger pendant les périodes de troubles, vikings, les guerres, y trouver refuge, et aussi pour stocker leur récolte, des silos à la grain, ou encore pour y faire des sépultures. Ces galeries, elles ont été occupées en permanence, donc depuis le Moyen-Âge, depuis leur creusement, jusqu'à la fin du 19e siècle, 70% de la population vivait encore dans ces caves. Étonnant, non ?
Et même sur tes vidéos, on a l'impression qu'il y en a certains qui ont été restaurés à l'heure actuelle, non ?
Oui, exactement. Certains qui ont été repris, notamment par des artistes. Ouais. Nous allons en reparler dans peu de temps.
D'accord, ok. Hein ?
Alors, autour de... Aller à Douai-la-Fontaine. Nous commençons par la cave des Perrières. Alors, c'est une cavité aux dimensions impressionnantes. On dirait des cathédrales creusées à la main, mais creusées depuis le haut. Alors, c'est assez original, parce qu'il fallait commencer par faire une tranchée, pas plus de 80 cm de largeur. Et l'explication, c'est qu'en fait, après, on va la reboucher.
D'accord.
Donc, on fait une tranchée, 80 cm de large. Puis, on s'enfonce de 2 ou 3 mètres. Avant d'élargir complètement sur une quinzaine de mètres et de descendre jusqu'à ce qu'on descende à la nappe. On pouvait faire ça, faire une sorte de première cathédrale, en faire une autre à côté, les faire jonctionner par des galeries. Et voilà, à la cave de Perrières, on a tout un réseau. Alors ensuite, le système, c'était la tranchée de 80 cm de large là-haut. On mettait 2 tuiles face à face qui se bloquent. On rajoutait de la terre et on pouvait retravailler les terrains par en haut.
D'accord, ah ouais, c'est
voilà.
Astucieux.
Et bien sûr, c'était le moyen d'extraire la pierre. Autre lieu, toujours dans les troglos. Alors là, une énigme, la cave aux sculptures. Dans une même cavité, pas extrêmement grande, encore qu'elle n'a pas été fouillée en entier parce qu'il y a un éboulement et plus personne ne cherche, mais la cave aux sculptures, On a des frises, on a des figures, on a des personnages d'origine mystérieuse qui nous regardent, qui nous font face. Et on peut reconnaître, mais vraiment, on reconnaît très bien Catherine de Médicis, même si on l'a déjà vue sur des images, donc on la reconnaît. Diane de Poitiers. Et tout laisse à penser que ces sculptures ont été faites au début du XVIe, c'est-à-dire jusqu'après la découverte de l'Amérique. D'ailleurs, on reconnaît dans ces sculptures, on reconnaît un portrait d'Indien. Donc voilà ce qui fait supposer cette datation. Et toujours dans ces troglos, je vous emmène, on le voit sur ma vidéo, deux châteaux pour le prix d'un. Alors, explication. Eh bien, il y a un premier vieux château troglodytique qui représente 1500 mètres de galerie avec des entrepôts, de la boulangerie, des caves, des pressoirs, enfin, des habitations. Puis, un second, alors ça, ce premier château est trop gros, donc il est plus bas que le sol. Un deuxième château Renaissance, construit sur le plateau, au-dessus. Donc vous avez deux châteaux pour le prix d'un. Alors d'autres nombreux châteaux, un peu partout, Pouzogues, Bressuire, qui ont joué des rôles plus ou moins importants, en particulier contre les Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Et une tour, le donjon de Moncontour, anglais au XIIIe siècle, qui a connu de nombreux affrontements. Et à l'époque de Diegelklein, il avait déclaré « Je ne pourrai jamais dormir dans un lit avant d'avoir pris mon contour et pendu les Anglais ». Alors ce château, pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a une histoire ensuite, deux siècles plus tard, entre catholiques et protestants qui s'affrontent sur le plateau. Alors, d'un côté, côté protestant, 19 000 hommes, 7 000 cavaliers, des pièces d'artillerie, sous le commandement de l'amiral Gaspard de Coligny. Côté catholique, 27 000 hommes, 9 000 cavaliers, 15 pièces d'artillerie, sous les ordres du duc d'Anjou, plus des mercenaires qui étaient au service des protestants. Ils ont refusé de se mettre en marche et ça leur a coûté la bataille. 8 000 morts ou prisonniers côté protestant, moins d'un millier côté catholique. Les protestants ont aussi perdu leur artillerie. Les prisonniers ne restèrent pas longtemps prisonniers. Il fut massacré. Règlement de compte, à la précédente bataille, La Roche-l'Abeille, ça avait été le contraire. On n'en a pas parlé beaucoup, mais les guerres de religion, ça n'a pas été la dernière des guerres. Il y en a eu 8 au total. Pendant 30 ans qui suivirent, 5 autres guerres ont encore eu lieu, jusqu'à la promulgation de l'édit de Nantes, 1598, par Henri IV. Ouf!
Eh bien, c'est mouvementé tout ça.
Et oui, toute cette Vendée qu'on ne connaît pas, il y a de quoi piocher.
Ah oui, complètement. Ouais. Et un peu de poésie dans tout ça, dans ta vidéo. On voit beaucoup de jardins dans tes vidéos.
Ah oui, les jardins japonais de Cholet, là aussi, oui, beaucoup d'images. Hein? C'est dommage, ça manque un petit peu de soleil, mais c'est un jardin magnifique, un des plus beaux jardins de France à voir.
Ouais, on peut s'y balader tranquille, milieu, puis, c'est sympa.
C'est grand, on peut y passer un bon moment. Oui.
D'accord. Okay. Ouais, ouais.
Et bien, je veux revenir sur un autre personnage, assez sulfureux celui-ci, et vous allez voir qui reste en mémoire. Il s'agit de Gilles Doré, considéré comme le premier serial killer. Il a été utilisé par Charles Perrault sous le pseudonyme Barbe Bleue.
D'accord, oui, ok.
Voilà. C'était un sacré combattant, bras droit de Jeanne d'Arc, combattant farouche, peur de rien. À 25 ans, il est connétable de France. Il se retrouve un peu désœuvré à la fin de la guerre de Cent Ans, à la tête d'une fortune colossale. Alors, il commence une vie de débauché et qui finit par le ruiner. Mais il ne s'embête pas. Endetté, il vend ses terres, il vend ses châteaux et puis il n'hésite pas à les reprendre à la force de l'épée. C'est pas grave. Peur de rien. Il part au château, plusieurs châteaux il avait bien sûr. Il part au château de Machecoul, où il pratique non pas l'alchimie, mais plutôt la sorcellerie. Il enlève des enfants qu'il sacrifie pour des séances sataniques. On a estimé environ 800 à 1000 meurtres d'enfants.
Oh,
ah oui, c'est pour ça que je fais cette parenthèse sur ce personnage. Oh, alors on voit au château de Tiffauges, sur mes images, on voit une crypte avec des colonnes, c'est là un petit peu que se passaient ces messes noires. Condamné à mort par le tribunal, il a été pendu et brûlé sur le bûcher. Donc, visitez le château de Tiffauges, qu'on appelle encore le château de Barbe Bleue.
Eh oui, bien sûr.
Une histoire ahurissante, mais bien réelle.
Malheureusement, ouais.
Voilà. Et je vous emmène maintenant faire un tour côté nature. Alors, un coin qu'on appelle, peu connu, qu'on appelle la Gâtine. Gâtine, ça signifie des terres incultes, marécageuses, des landes, des maigres prairies. C'est une partie de cette région qui est bien souvent oubliée, rarement visitée. Elle est trop près de sites touristiques majeurs et on oublie d'aller voir la Gâtine. C'est un coin, c'est un magnifique exemple d'un pays entièrement modifié par le travail de l'homme. Quand on imagine qu'elle était couverte de landes et de genêts, on est admiratif devant le travail des paysans à la fin du 19e ou au début du 20e. Il a fallu défricher, chauler abondamment pour préparer les labours. Et alors on découvre maintenant un paysage bocager constitué de multiples parcelles entourées de haies vives, d'où émergent, et c'est là l'originalité, d'énormes rochers de granit et, ou de chaos, et qui sont les vestiges de la chaîne hercynienne, autour desquels circulent de nombreuses légendes.
Bien sûr.
Les légendes des pierres branlantes, des pierres de Junement. Ces rochers, ici, on les nomme Chiron, ou encore Merveille. Toutes ces roches ont excité l'imagination et qui leur ont donné des noms. La selle, la coquille, les griffes du diable, enfin le nombril du monde. Voilà. Hein? Donc, la Gâtine. D'autres lieux qui méritent la visite. Dominant la Sèvre nantaise, le château de Clisson. Lui, il a protégé le duché de Bretagne. C'est un modèle de château fort, quasiment imprenable. On y trouve toutes les techniques, archères, canonnières, assommoires, les colonnes infernales dont on a parlé tout à l'heure pendant les guerres de Vendée. Elles ont précipité dans le puits toute la population qu'elle a pu y trouver. Voilà l'histoire du château de Clisson. Et puis, allez voir aussi, on n'est pas loin, la forteresse d'Angers, construite par Blanche de Castille et Saint-Louis, qui affirme sa vocation dissuasive, avec ses magnifiques remparts, 500 mètres de long, 17 magnifiques tours de schiste et de calcaire, c'est très beau. Et à l'intérieur, le trésor. Un trésor daté de 1375, la tapisserie de l'Apocalypse, un chef-d'œuvre de l'art médiéval. Elle fait 100 mètres de long, elle en faisait 140 à l'époque, et c'est un véritable catéchisme affiché au mur.
Ah ouais, d'accord. Les premières bandes dessinées.
Oui, les bandes dessinées, effectivement. Alors, un coup de cœur. Le petit village qui s'appelle Vouvan. Des maisons médiévales qui bordent des ruelles étroites. Un sentier qui longe les remparts, en bord d'une rivière avec un pont roman du 14e. Et à l'autre bout, la poterne et la tour Mélusine, vestige du donjon et guet de la forteresse des Lusignans, qui surplombe les méandres de la rivière, la mer. À voir aussi la crypte, les nombreux bas-reliefs de l'église. Et tout ça, ça fait de Vouvan un des plus beaux villages de France, qui est bien connu des artistes peintres. Je termine par deux sites hors des sentiers battus. Le premier, c'est les sanctuaires de Notre-Dame de la Salette, à la Rabatelière. Et on peut considérer que c'est les folies de l'abbé, un abbé illéré, qui sont les témoignages d'une spiritualité hors norme. Alors, c'est compliqué, hein, mais vous voyez les images. Une construction en briques et en galets, de plusieurs monuments élevés en dévotion de la Vierge Marie. Deux escaliers processionnels, ainsi qu'une rampe d'une quinzaine d'oratoires et de stèles mariales à mosaïque qui montent un coteau serpentant entre fontaines miraculeuses, statues de plomb peintes bénies, un chemin de croix qui débute par une grande arche, aboutit à un donjon carré, image de la forteresse de la foi. Tout symbolique. Ce sanctuaire, il est enclos d'une muraille avec des tourelles et au sommet, une chaire de prédication qui domine l'ensemble. Je ne sais pas si vous les imaginez. En tout cas, regardez les images, ça vaut le coup. C'est voilà. Pas connu, il n'y a personne.
Mais voilà, il vaut mieux voir la vidéo, on comprendra mieux.
Allez voir ma vidéo. Ouais. Et puis, alors là aussi, l'hélice terrestre à Saint-Georges, cette voie. Un artiste, Jacques Warmensky, achète un ancien village troglot et il commence dans les années 90, pendant 4 ans. Il travaille un travail un petit peu déjanté. Il sculpte dans les souterrains, il sculpte des formes géométriques ou abstraites. Il en ressortira 1000 tonnes de gravats. Ensuite, tout ce qui a été fait en creux, il le moule pour avoir un positif. Et ce positif, il l'expose dans une sorte d'hélice en spirale, genre qui s'enfonce dans la terre, un truc démesuré, avec tous ses positifs, par-ci, par-là. Actuellement, une poignée d'amis et de bénévoles maintient ouvert ce site, qu'on appelle l'Orbière, et ils se battent contre vent et marée avec peu de moyens. Dépêchez-vous avant que ça tombe dans l'oubli et que ça ferme, ça vaut vraiment le détour. Ça se situe à Saint-Georges des Sept Voies. Ça s'appelle l'hélice terrestre.
Sur ta vidéo, on voit aussi un grand spectacle dans des arènes. On se croirait revenir à l'époque romaine.
Tout à fait. J'y arrive.
Ah, ben tu vois.
On est au Puy du Fou.
D'accord.
Hein ? Alors, ce n'est pas tout à fait le genre de tourisme qui me fascine. C'est pas ce qui me fascine le plus. Hein. Mais j'avoue avoir été impressionné par la qualité des décors, les costumes, et les mises au point des effets, la variété des spectacles. Donc voilà, je termine ma vidéo par cette image de ce spectacle, oui, de chars romains dans des arènes.
Et c'est un spectacle qui est tous les ans ou c'était juste à ce moment-là ?
Oh, c'est tous les jours.
Tous les jours.
C'est tous les jours.
D'accord.
Ouais. Okay. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez une trentaine de spectacles. Dans la journée, on voit les gens dans les allées courir pour aller d'un spectacle à l'autre. C'est extraordinaire. Mais si on veut tout voir, il faut y passer deux jours.
D'accord.
Au bout de demi-journée, j'en avais assez un peu, mais bon.
Oui, mais toi.
Alors, qu'est-ce que je vais retenir de ce voyage ? Eh bien, d'abord, les chirons, les merveilles, ces gros rochers. Ah, je retiens ça, d'autant plus que ce n'est pas connu dans ce bocage. Les nombreux souterrains, les troglos, tous les châteaux, et puis ce passé vendéen, pas toujours connu. Et les images de VTT,
oui,
alors on va les oublier, hein. Ça ne va pas rester dans les annales. Il ne faisait pas beau, c'est tout plat.
Pas mal boisé.
Oui, de la végétation. Mais bon, ça ne restera pas dans les annales. On va oublier ça. Et la dernière chose, eh bien, ma foi, c'est l'aquarelle. Qui finit ma vidéo.
Voilà, l'aquarelle Nadine.
L'aquarelle Nadine. Elle a peint le lavoir de la Chaboterie. À l'entrée du logis, un lavoir en bord d'étang. C'est un haut lieu de la guerre de Vendée. C'est ici, dans ce petit bois, que le général Charette de la Contrie fut arrêté le 23 mars 1796.
Et on rappelle que toutes ces aquarelles, à chaque fin de vidéo, il y a une aquarelle de Nadine sur voilà, un coup de cœur de la
exactement.
Région que vous avez visitée.
Voilà, exactement. Ouais. Mmh. Et le mois prochain, c'est pas compliqué. Je vais donner des indices, mais bon, tout le monde va comprendre. Un Everest souterrain, des sommets mythiques, des cirques grandioses, la plus grande cascade d'Europe. Ça va ?
Oula, on s'approche des Pyrénées par là.
Voilà.
Haute-Pyrénées, on va aller même.
Haute-Pyrénées, oui.
Pays Basque, non, on va pas jusque-là.
Non, Pays Basque, non. Haute-Pyrénées, Haute-Garonne.
On n'en dit pas plus.
On n'en dit pas davantage.
Ça marche. Merci, Christian.
En attendant, bouger.
Et bouger en France.
Merci, Francis. À bientôt.
Ciao.